À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chers amis de Radio Cité, merci d'être à l'écoute encore aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, toujours en visioconférence, mais pas parce que nous sommes confinés, mais simplement parce qu'il y a un petit peu trop de kilomètres en termes géographiques entre la personne que j'ai en face de moi, qui est donc Céline Tadiotto. Je me réjouis donc de pouvoir échanger avec vous et avec elle. Céline, quand je dis « merci la vie », comment cela résonne en vous ?
Alors, merci la vie, je le ressens dans le cœur, au niveau du cœur, ça ouvre les valves métaphysiques de mon cœur et c'est très bon de se sentir connecté à la gratitude pour ce qui nous arrive, pour les choses qu'on ne comprend pas forcément et qu'on découvre comme étant en fait des véritables cadeaux. Donc, quand vous évoquez « merci la vie », voilà ce que ça fait pour moi.
Il y a quelques semaines, j'étais en entretien avec Sandrine Perrier. Et puis, j'évoquais le fait que Sandrine, je l'avais connue dans un lieu sympa où il y avait beaucoup de vent. C'était un jour donc ensoleillé où vous m'aviez invité, ainsi que Marie-Claire, ma femme, lors d'une petite célébration puisque vous alliez déménager. Et je faisais remarquer à Sandrine que j'étais dans un endroit où il y avait effectivement beaucoup de vent. Votre mari était en train d'essayer de tenir le parasol qui menaçait de s'envoler. Mais j'avais dit à Sandrine que je voulais remercier la personne qui nous avait accueillis. Et puis, ça se fait volontiers aujourd'hui, puisque c'est chez vous que nous étions. Vous étiez en train de faire un petit rituel de départ, puisque vous alliez déménager. Vous étiez un petit peu sceptique avant, sachant pas trop où aller. Vous cherchiez un petit peu très loin, à droite, à gauche. Et puis, soudainement, vous avez rencontré une opportunité à laquelle vous ne pensiez peut-être pas au départ et qui s'avérait beaucoup plus proche. Ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé. Je rappelle qu'à ce moment-là, on était confinés et que les frontières étaient fermées. Donc, pour nous, c'était une grande énigme de savoir si nous allions pouvoir passer avec des camions de déménagement, etc. D'un autre côté, on envisageait de chercher un lieu de vie qui soit particulier, qui nous corresponde, et puis on avait du mal à trouver, et en fait, on ne se rendait pas compte qu'on l'avait sous les yeux. Donc, oui, ça s'est très bien passé, puisque ça a été une découverte, que le passage de frontière s'est fait sans aucune difficulté. C'était un peu pittoresque, enfin, épique, pardon, quand même. Voilà, mais ça s'est très bien passé et ça me reconnecte toujours à la confiance inconditionnelle qui est vraiment, vraiment l'énergie dans laquelle j'invite toutes et tous à s'inscrire pour pouvoir lever les obstacles. Parce que c'est une énergie qui nous conforte et qui nous contient dans le sens maternant du terme.
Lever les obstacles. Je ne peux pas m'empêcher de relier ça à ce que j'ai vu sur votre site internet. Vous êtes donc thérapeute et naturopathe. C'est aussi quelque chose qui est un peu aidant pour ceux qui ont besoin de passer certains obstacles.
Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas tellement naturopathe. J'ai été formée et je suis diplômée du Collège de médecine douce du Québec en tant que naturopathe et praticienne de santé, mais je ne pratique pas véritablement la naturopathie. Je laisse cette discipline à des personnes qui consacrent vraiment tout leur temps à ça. Mon cœur et mon être se sont plutôt développés à accompagner les personnes dans l'émergence de leur plus grand potentiel. C'est ce qu'on va mettre sous l'étiquette de thérapeute. Mais ce qui est né en moi au cours de ces années de pratique, ça fait plus de 20 ans que je pratique maintenant, c'est la lecture du corps, la pratique de la lecture du corps dont je me réjouis de pouvoir parler un petit peu si l'occasion s'en donne pendant notre échange.
Alors, j'ai aussi relevé un mot un peu barbare, parce que c'est pas vraiment ma langue maternelle, c'est la pratique du Jinshin Jutsu. Vous pouvez m'en dire deux mots ?
Oui, c'est très très bien prononcé, c'est pas très facile. Alors le Jinshin Jutsu, c'est une pratique japonaise que j'ai rencontrée dans les années 90 et qui m'a, on va dire, sauvé la vie. Et donc je suis praticienne depuis tout ce temps de Jinshin Jutsu et c'est un art japonais de soins, c'est très important le mot art, qui est l'ancêtre de l'acupuncture d'une certaine façon. C'est-à-dire que le Jinshin Jutsu considère le corps humain comme étant la manifestation la plus dense d'une danse énergétique magnifique que nous sommes. Et lorsque cette énergie rentre dans la matière, eh bien, elle crée et elle constitue un corps dans lequel nous habitons. D'accord? Et donc, le Jinshin Jutsu considère qu'il y a 52 portes d'intelligence sur le corps. Et si une de ces portes, que vous pouvez imaginer comme étant une écluse, se trouve trop fermée, eh bien, mon énergie va s'accumuler derrière cette porte et créer un désordre en amont, comme un système d'irrigation qui se trouverait parce qu'il y a des feuilles mortes ou parce que la porte elle est un peu rouillée, etc. On peut imaginer une articulation là. Et donc, cette énergie peine à passer et va entraîner des douleurs, des crispations musculaires. Mais si, au contraire, la porte, l'écluse est trop ouverte, alors des flots et des quantités énormes d'énergie vont s'écouler au travers de cette porte et je vais avoir une fuite énergétique. Je vais me retrouver épuisée alors même que je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, donc le Jinshin Jutsu, voilà, c'est un système, c'est un art de soin qui tient compte de ces portes d'intelligence du corps et qui se trouve être à la base de cette méthode qui est née en moi et que j'appelle la lecture du corps. C'est-à-dire que maintenant, quand je pose mes mains sur un corps, Michel, j'ai la grande chance de recevoir énormément d'informations. Alors, je parle de l'équipe de guidance, par exemple, qui est autour des individus. Et cette information, elle vient et elle me donne des renseignements sur la personne qui vient à ma rencontre. Et donc, je lui transmets ces informations parce qu'elles ne sont pas pour moi. Elles sont pour la personne qui habite dans ce corps, pour que puisse se libérer le plus grand potentiel. Est-ce que j'explique clairement cette affaire-là ?
Alors, ça résonne en moi de la façon suivante. Il m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie de me dire « Ouh là là, si je suis encore sur Terre, ça doit être grâce à mon ange quand même. » Des fois, quand il bat des ailes, j'ai l'impression qu'il y a un petit vent d'amour qui passe autour de moi. Est-ce que vous ne seriez pas peut-être un intermédiaire, c'est ce que j'entends, entre ce que sont les anges et puis moi, là-dedans, qui ai envie de les remercier parce que des fois, ils me soutiennent, ou en tout cas, j'ai le sentiment qu'ils sont aidants à mon égard, ou peut-être même bienveillants.
Oui, c'est très joli comme façon de l'apporter. Eh bien, pourquoi pas, mais je vais me permettre de l'expliquer aussi différemment. C'est-à-dire qu'il y a une façon un peu moins romantique, mais tout aussi intéressante de le voir, c'est que la discipline quantique qui se développe à notre époque reconnaît que tout ce qui est vivant émane de l'information. Et alors, on appelle ça le champ morphogénique. Mais d'un autre côté, par exemple, les Indiens, notamment dans le principe hindou, parlent de deux courants d'énergie qui jaillissent de nos épaules, entre notre cou et nos épaules, qui s'appellent Indanadi et Pingalanadi. Et on se rend compte que dans notre imagerie chrétienne des anges, ces deux grands geysers d'énergie qui jaillissent de nos épaules sont visibles pour les gens qui ont la double vue, comme des grandes ailes.
Ces grandes ailes que j'avais jamais réussi à interpréter autrement que par, comme on le voit quand on est un enfant, je suis toujours assez enfant pour le voir encore de cette façon-là, justement des esprits qui m'effleurent et puis qui peuvent passer un peu partout autour de moi. En fait, là, vous venez de donner une image qui me paraît un peu plus compréhensible si on parle effectivement d'énergie. Oui. Et puis ça vient d'Inde, ça l'Inde me fascine également. Et vous parliez de tout ce qui est vivant, enfin que tout vibrait dans la nature, que rien était statique. C'est ça. Et j'ai remarqué aussi que il y a des choses qui résonnent quand elles vibrent correctement. Et là, je reviens à l'Inde avec la fascination que j'ai pour un instrument là-bas qui s'appelle le sitar.
Oui.
Où il y a 5 cordes que l'on joue, auxquelles on est directement physiquement relié, et il y en a 13 derrière que l'on ne touche pas, mais si elles sont réellement en harmonie, elles vont se mettre à vibrer également et émettre également des sons alors qu'on ne les a pas touchées. Donc j'adore démontrer cette image de lien de cause à effet entre ce que l'on touche et ce qui arrive à résonner et à émettre également quelque chose si on est en accord avec. Si je pars du principe que tout dans l'univers vibre et puis que je rejoins ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire en plus que tout est vivant.
Absolument. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette image que je vais garder dans mon cœur, parce que si je reprends le Jin Shinjutsu, il y a donc 52 portes d'intelligence, mais il y a 144 000 flux, comme le même nombre que le nombre de colonnes dans les temples Jain, si on reste en Inde.
Oui.
144 000 colonnes, bien. Eh bien, en fait, si ces 52 portes d'intelligence vibrent correctement, alors tout l'individu entre en harmonie et il peut, de son vivant, être véritablement dans un état que l'on rapporte à l'illumination, par exemple, dans notre compréhension occidentale. C'est-à-dire que l'harmonie fait que la personne s'expanse et se fait l'expérience de l'unité.
Ça veut dire qu'en bon terrien, quand je me pose derrière dans l'herbe sur la crête du Jura, où j'affectionne d'aller de temps en temps, et que je me pose là tranquillement et que j'ai besoin de me recentrer comme tout le monde, le simple fait de m'accorder avec ce qui m'environne, avec la nature, avec les arbres, avec ce qui m'entoure, je deviens peut-être cette corde sympathique qui résonne, oui, en face de quelque chose qui est très terre-à-terre, qui nous touche comme bêtement la vache qui passe dans le pré. Et en fait, tout cela me recentre avec moi-même.
En fait, c'est au-delà de la corde, je dirais qu'on est un instrument et on a les clés. Alors moi, je ne connais pas exactement les termes musicaux pour parler de ces choses-là, mais il y a des petites clés en ivoire magnifiques sur les instruments à cordes que l'on tourne pour tendre ou détendre un peu une corde pour qu'elle sonne correctement. Eh bien, on a 10 de ces clés au bout de chacun de nos doigts, au bout de nos deux mains, et chacun de nos doigts est une de ces clés. Et si vous vous asseyez, si vous posez vos fesses au milieu des vaches suisses dans l'herbe, eh bien, je vous invite à tenir, avec tout l'amour que vous aimeriez que le monde ait pour vous, à tenir juste un doigt, et ça va accorder cet espace-là à l'intérieur de vous. La totalité de la circulation énergétique qui est dans le corps se résume et se termine dans nos doigts, et nous pouvons nous accorder comme des accordeurs de piano pour corps humain ou des accordeurs de guitare, etc., simplement en tenant nos doigts.
Alors là, nous mettons le doigt donc sur quelque chose qui pourrait nous inciter à ne jamais terminer cette discussion ou en tout cas de proposer d'en ouvrir une autre à un autre moment. Je pense que les auditeurs sont attentifs à ce que nous échangeons maintenant. Nous parlons de choses naturelles, finalement. Des fois, j'ai la crainte que les auditeurs se disent « Maintenant, ils sont complètement barrés, ces deux-là, quand ils discutent maintenant. » Et pourtant, je reste sur le sentiment qu'on parle de choses très simples et infiniment, oui, naturelles, et que simplement, peut-être que lorsqu'on est en face de quelqu'un qu'on connaît pas dans le tram ou dans un train, puis qu'on se sent triste, séparé de sa propre personnalité et du monde, en se demandant qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que c'est là un moyen justement d'évoquer ce qu'on est en train d'échanger maintenant et de se dire, attendez, il y a des choses toutes simples,
oui,
qui nous raccordent à la vie et qui sont justement, et là je boucle la boucle en disant, mais qui font que même dans ces situations des fois qui nous paraissent au premier degré très insatisfaisantes, je peux retrouver une sorte de merci la vie par ce biais-là.
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a vraiment quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'on a un corps. On est dans le train, dans l'état que vous étiez en train de décrire, ou bien en face de quelqu'un que l'on voit triste, etc. Mais notre point commun, c'est le corps. Et ce qui est à l'intérieur du corps, après, c'est le cœur, notre conscience, etc., qui va avoir la chance d'être plus ou moins facile à développer en fonction aussi de l'éducation qu'on aura reçue et de l'amour qu'on aura reçu et de l'attention qu'on aura reçue. Mais on a tous ce corps. Et c'est ce que je trouve fabuleux dans ma pratique, c'est qu'en fait, les gens viennent à moi avec un corps. D'où la terminologie de lecture du corps, si je ramène ça à ma pratique.
Alors, ce que je trouve extraordinaire, justement, c'est qu'on arrive à accorder tout cela, des fois, dans le bus, dans le train, ou même en croisant quelqu'un dans la rue, avec un simple sourire.
Oui, tout à fait. Et le regard aussi. Le regard est très important.
Donc, c'est en regard de cette discussion que nous venons d'avoir que je me dois de ponctuer cet entretien par un « à bientôt, j'espère ». Je mettrai l'adresse du site internet « Art et énergie de vie » pour que les auditeurs qui s'intéressent et les auditrices qui s'intéressent à cette façon de ressentir la vie puissent en apprendre un peu plus.
Très volontiers. Merci beaucoup, ce serait bien.
Céline Tadjoto, je vous souhaite le meilleur du monde dans ce nouvel endroit que vous découvrez maintenant. Je crois savoir qu'il est à la campagne, donc c'est certainement un lieu où on se ressource très facilement. Et je vous propose donc que l'on se quitte sur ceci. Je dis encore une fois, merci la vie.
Merci Michel, merci la vie.
À tout bientôt.
Bye bye.